أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده سالما موفقا من الشر معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما نسأله مولانا أن يخرجنا من ظلمات الوهم، وأن يكرمنا بنور الفهم، وأن يفتح علينا بمعرفة العلم، وأن يسهل أخلاقنا بالحلم، وأن يجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمة. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، كما أخبرناكم آنفا، فاليوم لنا الشرف أن نستضيف مرة أخرى للمرة الثانية في هذا المسجد المبارك فضيلة الدكتور الأستاذ سيدي محمد السرار، الذي يرأس مؤسسة ابن القطان للدراسات السنة النبوية والحديث النبوي، وهو أستاذ بكلية الشريعة التابعة لجامعة القرويين بفاس، ومتخصص في علم الحديث. وسبق له أن أشرف على تكوين الأئمة، وكان له برنامج خاص في التلفزة المغربية، كما أنه حصل في السنة الماضية قبل بضعة أشهر على جائزة أهل الحديث في المغرب وهذا شرف لشيخنا وشرف لنا كذلك، لأن نشرف دائما باستقباله وبحضوره معنا والاستفادة مما حباه الله عز وجل من علم. فبمناسبة لقاء سوف ننظمه يوم الأحد بعد غد في مدينة فورباك، استدعينا الشيخ وأبينا إلا أن يشرفنا في هذا المسجد قبل أن ينتقل إلى مدينة فورباك، وأن يرجع إلينا يوم الاثنين والثلاثاء إن شاء الله، حتى نزداد من الاستفادة منه بإذن الله عز وجل. فاليوم إن شاء الله سوف يحاضرنا، ونحن لم نقترح عليه عنوانا معينا، بل تركنا له الاختيار، فكل ما جاد به فيه خير وفيه استفادة بإذن الله تبارك وتعالى. دونك شيخ فريز سور، nous sommes très honorés d'accueillir parmi nous الشيخ الدكتور محمد السرار، qui est le président de l'Institut Ibn al-Qattan pour les études de la Sira, de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que du hadith, et il est enseignant à la faculté de Sharia dans le qui est rattaché à Jami'at al-Qarawiyyin à Fès, et il dirigeait une émission quotidienne sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était responsable aussi de la formation des imams, et il y a quelques mois, à la fin du mois de Ramadan, il a été décoré d'une décoration au Maroc concernant les gens du hadith, et c'est un spécialiste de ilm al-hadith. Donc nous sommes très honorés de l'accueillir parmi nous. Nous comptons organiser une rencontre, un séminaire après-demain, le dimanche, à Forbach, et vous y êtes tous invités, qui va commencer à 10h30 à Forbach et qui se terminera vers 18h30. Donc vous y êtes tous conviés, hommes et femmes. Et donc c'est à cette occasion que nous l'avons invité, et nous avons insisté pour qu'avant de passer à Forbach, qu'il passe déjà par notre mosquée ici. C'est la deuxième fois qu'il nous rend visite. La première fois, on était en plein travaux. Alhamdoulilah, aujourd'hui, les travaux sont en fin d'achèvement. Et donc, nous avons tenu à ce qu'il soit parmi nous pour profiter de son savoir. Donc, il sera avec nous aujourd'hui, Inch'Allah, ainsi que le lundi. Donc, il donnera aussi une conférence le lundi. Et mardi, ça sera une conférence spéciale pour nos sœurs, Inch'Allah, bi'idhnillah. Comme ça, ils peuvent profiter aussi de leurs questions juridiques et les questions qui sont spécifiques aux femmes. Donc, nous n'avons pas choisi une thématique bien précise pour la conférence de ce soir. Nous lui avons donné le choix de choisir lui-même la thématique. De toute façon, quoi qu'il dise, sur n'importe quelle thématique qu'il aborde, Inch'Allah, nous profiterons toujours de ce que Allah Azza wa Jal lui a donné comme savoir. Donc je lui laisse, Inch'Allah, la parole, et on fera une traduction simultanée de sa présentation.
Shukran jazilan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalan ala Sayyidina Muhammad النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله والرضا عن صحابته أجمعين من الأنصار والمهاجرين. أنا الذي حصل لي عظيم الشرف لكي أقعد في هذا المسجد المبارك، والذي ازدادت أنواره، هو دائما منور ازدادت أنواره، فجئت مقتبسا من أنوار هذا البيت المنسوب تشريفا إلى رب العزة سبحانه في هذا المكان الطاهر مع هذه الوجوه التي يسرني أن أقعد بينهم، مرحبا في الوقت نفسه بإخواننا وأخواتنا الصغار والكبار والأطفال والرجال. نجتمع في هذا اللقاء، وأبدأ بشكر الأستاذ الدكتور سيد الأمين نجدي إعمالا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر لله من لا يشكر للناس، الذي سعى في ترتيب هذا اللقاء حتى نجتمع على مائدة مدارسة القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سأحاول أن يكون كلامي موجزا مختصرا قاصدا مركزا متسلسلا. هذه كلمات خمس أقصدها: الإيجاز مقرون بالاختصار مع التركيز والتركيب، وأن تكون الأفكار متسلسلة. واخترت أن أجعل هذا الكلام مهتديا ومنورا بحديث عظيم روي في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، وهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات، وكره لكم ثلاثة: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثة: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. هذا الحديث أعدته ثلاث مرات اهتداء بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روته عنه السيدة عائشة رضي الله عنها، من أنه كان إذا حدث بالحديث أعاده ثلاثا، وذلك حتى يفهم وحتى يعقل وحتى يعرف. هذا الحديث العظيم الجليل فيه فوائد كثيرة متعددة، سأحاول أن أسرد بعضها من خلال هذا الترتيب المتسلسل بالأرقام: أولا، ثانيا، ثالثا، على حسب ما يسمح به الوقت وما يسعه الجهد. فأول ما في هذا الحديث المثير، أول ما يثيرنا، هو بلاغة ألفاظه وحسن سبكه ورنته على الأذن جميلة. وهذا الأمر اختص به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جمله الله عز وجل بأنواع الجمال، ومن ذلك الجمال جمال اللسان. كان صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في خلقه، كاملا في خلقه، كاملا في عبارته. وأخبر عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أوتيت جوامع الكلم، أي خصه الله عز وجل وأعطاه الكلام الجامع، أي الذي ألفاظه قليلة معدودة سبع حساب، ولكن معانيها كثيرة وعظيمة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم.
شوف هو الحديث كداية. ثم بالإضافة إلى ذلك انظروا إلى الألفاظ المستعملة فيه، كلها ألفاظ مألوفة ليست ألفاظا غريبة. أمهات، بنات، منع حكم منوع، هات يا أري، قيل، قال، كثرة، سؤال، إضاعة، المال. يعني تلاحظون أن هذه الألفاظ ليست غريبة، ماشي كفرنقعوا عني أي تفرقوا عني، وهذا لفظ صعب. أو الصمصامة هو السيف، يقول مثلا
أولى المقامع، ضربه بالمقامع، ولكن الألفاظ النبوية هذا هو البديع فيها، ولا يستطيع أحد أن يركب تركيبها. السر في التركيبة، المواد موجودة، التركيبة صعبة. يعني بحال شي حد طباخ ماهر مثال، وكتعطيه أشياء بسيطة متداولة موجودة في السوق، بطاطس، جزر، طماطم، ولكن إذا مزج ذلك أتى بالعجائب بحيث لا يستطيع أن يلحقه أحد. ولهذا هذه الألفاظ النبوية الرشيقة العظيمة تدل على كماله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو أول ما يوجد. ننتقل إلى الثاني، ثم ثاني ما يوجد في هذا الحديث وما يثيرنا هو أن الأمور التي رغبت الشريعة في تركها ليست على درجة واحدة وفي مستوى واحد، ماشي كيف كيف الحاجة اللي قالت لك الشريعة بعد منا ماشي بحال بعضيتها. هنالك الأمور التي أمرتك أن تبتعد منها عنها، ولكن مع توكيد في الابتعاد، وهي المحرمات. هنالك أمور أخرى ندبتك إلى الابتعاد عنها أيضا، ولكن ليس بنفس التوكيد الذي يوجد في المحرمات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور التي أمر المسلم أن يبتعد عنها فصل بين مستويين: الأمور الغليظة القبيحة كالعقوق، يكون إنسان مسخوط عياذا بالله مع أمه، القتل، قتل النفس التي حرم الله، هذه قال إن الله حرم عليكم، استعمل لفظ التحريم. الأمر الآخر الذي هو إضاعة الوقت في القيل والقال، أو التعرض بكثرة السؤال، قال وكره لكم ثلاثا. وهذان اللفظان مشعران أن درجة الأعمال الأولى أقبح وأخطر من درجة الأعمال الثانية، وهذا فيه إشارة وإشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون عنده هذا الميزان، واحد الميزان ضروري يكون عنده، بحيث أنه إذا أراد أن ينكر لا ينكر الأمور المكروهة إنكاره للأمور المحرمة، وإذا أراد مثلا حاجة اللي هي غير مكروهة أو خلاف الأولى كأن يشرب الإنسان قائما لا تنكر عليه كما تنكر على الذي يشرب الخمر مثلا، مشي في نفس المستوى. ولهذا كثير من الخلل الموجود عند كثير من الناس يأتي من هذا الباب، وأنهم لا يرتبون الطاعات على حسب الأولويات، ولا يرتبون المعاصي أو الأمور التي ينبغي أن تجتنب على حسب الأولويات. فالطاعات مرتبة والمحرمات مرتبة أيضا. هذه المحرمات، هذه الأمور التي يجتنبها الإنسان، الأمور ديال الطاعة مثالها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث في البخاري عن أبي هريرة قال قال يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
ترتيب. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أي أحب الطاعات الفرائض. ثم جاء بعد ذلك إلى التي بعدها، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. عاد كتجمعها النوافل. ولهذا إذا فرض الإنسان في الطاعات وأكثر من النوافل فقد قلب الأمر رأسا على عقب. بحال ياش بحال شي واحد لا يصلي الجمعة كيقوم الليل دائما. تقربك إلى الله بأداء الجمعة أو لا من قيام الليل، ديرهم بجوج مزيان، ديرهم بجوج مزيان. تفعل فريضة هي أحب إلى الله عز وجل من النوافل، ثم تزيد بعد ذلك نافلة. هذا الميزان الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث كان واضحا عند الصحابة الذين رباهم رضوان الله عليهم، واضحا هو أن الأعمال لها سلم، سلم الأعمال، وهذا الأمر يؤكده النبي صلى الله عليه وسلم. سلم الأعمال، هذا السلم. هل الإنسان غيمشي يتسوق مثلا، وأنت غادي تمشي تسوق للدار وعندك مثلا 100 أورو هي اللي عندك، غتجيبها كلها كغيط كمسحوا به الدين واحد الكوزينة وداك الشيء، يوفيني البطاطا ومطيشة وراك تسوقتي، ولكن لم ترتب الأمر على حسب الأولوية. نفس الشيء بالنسبة للتعبد، فعلا واجتنابا، نفس الشيء بالنسبة للتعبد. ولهذا جاءت الشريعة بهذا الميزان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وما تقرب إلي عبدي بشيء، هذه كيسميوها يعني نكرة في 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 سياق النفي، على العموم كيفما كانت هذه العبادة بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. مثلا إنسان قد يحج ولا يحج ويعتمر كل سنة، العمرة مزيان نافلة من النوافل ثوابها عظيم، ولكنه مقصر في الفرض، مقصر في الفرض. أو إنسان كريم مضياف داره بحال الزاوية ممتاز، ولكنه لا يؤدي زكاة ماله، أداء زكاة المال مقدم ثم يبني عليه الإنسان بعد ذلك. وهذا الأمر كما يوجد في العبادات التي هي من قبيل الطاعات التي يفعلها الإنسان، يوجد أيضا في باب النواهي التي يتعين عليه أن يبتعد عنها. ولهذا فصل النبي صلى الله عليه وسلم بين المستويين وغاير بين العبارة، فقال إن الله حرم عليكم في الأولى اللي هي كبيرة وغليظة، ومن جاء إلى المستوى الثاني تلع عبارة بدلها قال وكاره لكم ثلاثة. إذن هذه هي الفائدة الثانية.
دونك شيخ comme à son habitude va être objectif et viser directement, c'est-à-dire être concis, précis et objectif dans ce qu'il va présenter. Et il s'est basé dans cette allocution sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, duquel il va essayer de tirer le maximum d'informations, le maximum de leçons et de moralité qui vont forcément nous servir. Ce hadith-là, qui représente le squelette de cette intervention, c'est un hadith qui a été rapporté par al-Bukhari et muslim, donc c'est dire que c'est un hadith qui est authentique sûr, sur Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah harrama alaykum uquqa al-ummahat, Allah azza wa jal vous a interdit l'impiété envers les mères, wa wa'da al-banat, l'enterrement des filles vivantes, ce qui était une pratique connue chez les Arabes avant l'islam, wa man'an wahat, man'an ça veut dire interdire la chose, ou bien demander la chose, être avare ou bien être cupide. وَكَرِهَا إِلَيْكُمْ ثَلَاثٍ donc, et il vous déconseille 3 choses. قِيلَ وَقَالَ un tel a dit, un tel a dit, donc perdre du temps à raconter ce que les autres disent. وَكَثْرَتَ السُّؤَالِ donc l'abondance des questions, poser trop de questions. وَإِضَاعَتَ الْمَالِ le gaspillage des biens matériels ou bien le gaspillage d'argent d'une manière général. Alors, Cheikh a répété 2 fois et 3 fois ce hadith puisque comme a dit Aïcha radiallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait une exhortation ou un hadith, il le répétait par trois fois pour permettre à ceux qui l'écoutent de bien l'intégrer, de bien comprendre et de prendre le temps de prendre les leçons et les moralités de sa parole. Donc Allah Azza wa Jal vous a interdit trois choses: l'impiété envers les mères, l'enterrement des filles vivantes et l'interdiction et la cupidité. Et il vous a déconseillé trois choses: qila wa qal, un tel a dit, l'autre a dit, l'abondance des questions, trop, poser trop de questions, et le gaspillage de l'argent. Alors Cheikh a, jusqu'à ce niveau-là, a tiré deux leçons principales. La première, c'est l'éloquence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez bien que les paroles choisies par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des paroles accessibles, simples à comprendre par tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était précis dans ses paroles, il n'allait pas chercher des termes qui risquent d'être incompris par ceux qui l'écoutent. Donc lorsqu'il a parlé des mamans, il a parlé des filles, il a parlé de man an wahad, dire et enfin, raconter les racontars de ce que les autres disent. Donc vous voyez qu'il choisit des termes qui sont faciles. Il ne prenait pas la peine, comme le font beaucoup de personnes, de choisir des vocables inaccessibles, des vocables qui ne sont connus que par peu de monde. En revanche, malgré, même si la composition des phrases du prophète sallallahu alayhi wa sallam est constituée par des éléments qui sont simples, par des vocables qui sont simples, mais la composition est riche. La composition dénote l'éloquence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lucidité de son esprit et son intelligence. C'est ce que les savants disent, as-sahlul mumtani, c'est la chose qui est facile mais inaccessible aux autres. Il est facile, les mots sont faciles, mais inaccessibles aux autres. Et c'était justement une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était le meilleur éducateur, et il n'y a pas mieux que d'éduquer les autres avec des mots simples, précis, mais bien constitués. Cheikh a dit que c'est comme l'exemple de quelqu'un qui va aller au marché, il a devant lui plusieurs légumes, mais il ne sait pas composer un plat délicieux. Tout dépend de qu'est-ce qu'on va choisir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc avec les éléments qui appartiennent à tout le monde, qui sont à la portée de tout le monde, il donnait un conseil très précis et qui transmet énormément de leçons. Donc ça, c'est la première moralité, la première leçon qu'on peut tirer de ce hadith. La deuxième leçon, c'est que vous voyez que le hadith est divisé en deux parties. Dans la première phrase, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu vous interdit ». Dans la deuxième partie du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et il vous conseille ». Il vous interdit trois choses et il vous déconseille trois choses. Donc vous voyez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mis tous les interdits à pied d'égalité, mais il a montré qu'il y a une échelle dans laquelle sont placés les interdits et une échelle dans laquelle sont placées les choses qui sont déconseillées. Et ceci est vrai dans la législation islamique, aussi bien pour les choses obligatoires à accomplir, pour nos obligations, que pour les choses qui sont interdites ou déconseillées. L'islam, lorsqu'il interdit certaines choses, il ne les met pas tous au même niveau. Donc il y a une graduation dans l'interdit et une grande graduation dans ce qui est obligatoire. Et ceci est très très important, parce que quelqu'un qui veut appeler à l'islam, quelqu'un qui veut conseiller les autres, qui veut orienter les autres, doit justement tirer ce genre de leçons et les utiliser dans sa manière d'appeler les autres à l'islam. Il doit d'abord commencer par les choses qui sont obligatoires, qui représentent le socle de l'islam, avant de commencer à parler de certaines ramifications. Et d'ailleurs, nous le connaissons dans la religion musulmane, une personne qui va œuvrer certaines œuvres qui sont belles, c'est des œuvres pieuses, des œuvres pies, mais qui ne sont pas les priorités de la religion, alors qu'il est négligent vis-à-vis des priorités. C'est quelqu'un qui n'a pas compris le sens de l'islam, c'est quelqu'un qui a inversé les choses. Les priorités, il les a mis à la fin, et les choses qui sont à la fin, il les a mis au début. Cheikh a dit, c'est comme l'exemple de quelqu'un qui néglige la prière du vendredi en groupe, il la néglige, même s'il n'a pas, de raison valable pour ne pas la faire, il la néglige, mais qui passe la nuit durant à accomplir des prières nocturnes. C'est quelqu'un qui n'a absolument rien compris au sens de l'islam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qudsi apporté par le Bukhari, il rapporte sur Allah azza wa jal qu'il dit من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. celui qui se comporte avec une animosité envers un de mes élus, je lui déclare la guerre. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Il n'y a pas une chose par laquelle mon serviteur se rapproche de moi mieux que les obligations que je lui ai prescrites. Si vous voulez vous rapprocher de moi, utilisez les obligations que je vous ai prescrites. Il n'y a pas un autre moyen de se rapprocher de moi meilleur que les obligations. Et ensuite, en deuxième degré, il a dit « وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » Et mon serviteur continue de se rapprocher de moi à travers les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc les actes surérogatoires viennent toujours en deuxième degré par rapport aux actes obligatoires. Et ce qui est vrai pour les actes obligatoires l'est aussi pour les interdits. Les interdits ne sont pas au même degré. Il faut établir une échelle d'interdits. Il y a ceux qui sont au sommet et il y a ceux qui sont à la base. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre l'islam. Et c'est avec cette manière, en connaissant justement ces petits détails-là et ces subtilités, il faut justement adopter une stratégie et une manière d'appeler à l'obligatoire ou d'interdire l'interdit, ou bien de déconseiller le déconseillé. On ne va pas le faire avec la même force, on ne va pas le faire avec le même acharnement. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est seulement déconseillé, quelqu'un par exemple qui va boire debout, on ne va pas le réprimander et le blâmer comme quelqu'un par exemple qui boit l'alcool. On ne va pas les mettre au même titre, ou bien leur parler, les exhorter comme si on parle à la même personne. Donc il faut adopter une certaine manière, une dextérité dans la manière avec laquelle on s'adresse aux autres, selon l'échelle bien entendu de ce à quoi, ou bien la place qu'occupe la chose à laquelle on veut appeler dans cette échelle des interdits ou dans l'échelle des obligations. Et Cheikh a donné justement un exemple très parlant de quelqu'un qui est très généreux, qui accueille ses hôtes chez lui. Donc il est très généreux vis-à-vis d'eux, il leur prépare beaucoup de nourriture et ainsi de suite, mais qui ne donne pas sa zakat al-mal. Donc on ne va pas dire qu'il est généreux. La générosité commence d'abord par accomplir ce qui est obligatoire par rapport à tes biens matériels, à savoir zakat. Ensuite vient la générosité surérogatoire vis-à-vis des autres, mais on ne peut pas inverser l'échelle.
الفائدة الثالثة الموجودة في هذا الحديث تتعلق بقسمه الأول. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النبهات. من حيث شرح هذا القسم شرحا قريبا نقول احنا تبسيط ذلك. إن الله حرم عليكم التحريم هو المنع. التحريم هو المنع. والشيء إذا حرم ترتب عليه الذم والعقوبة. أي إن الله عز وجل منعكم أن تفعلوا هذا أو أن تقتربوا منه. ومن فعله فهو مذموم. يقول إنسان عاق مسخوط مذموم. مذموم. قد عرض نفسه لعقوبة ربه في الدنيا وفي الآخرة. عقوق الأمهات يعني الوالدات. وذكرت الأم مع أن الوالدين لهما حق البرور معا، حق البرور معا. وقدمت الأم معان كثيرة، منها أن إحسانها إلى الولد أعظم وأتم، لأنها حملت وأرضعت وتعبت ليرتاح ولدها، وسهرت لينام ولدها، ونظفته، تعلق قلبها به، فرحت لفرحه واهتمت لحزنه، وما تزال ترعاه حتى يكبر ويتزوج ويلد أولاده، وهي مهتمة به متطلعة إلى مصالحه، لا تفتر عن ذلك. فإذا قابل الإنسان أمه مع عنايتها التامة بذلك بضد الإحسان، لأنه شنو العقوق؟ العقوق هو منع الإحسان، هذا هو العقوق. وهذا المنع قد يكون منعا لإحسان مادي بحال كأنه ما ينفقش عليها، أو أن يكون منعا لإحسان معنوي. إحسان معنوي أي يقول إذا قال الإنسان لأمه كلمة مزيانة يحسن إليه إحسان معنويا، يفرح قلبها، يفرح قلبها، هذا هو الإحسان المعنوي، ما فيهاش الفلوس ولكنه إحسان معنوي. فكل أشكال منع الإحسان سواء كان ماديا أو كان معنويا فهو من العقوق. أو الإنسان لا يزور أمه، هو كيصرف عليها لكن ما كيمشيش عندها، داير لها الشهرية كتلحقها كاين ما كيمشيش عليها، هذا نوع من العقوق، يقولوا أنا ما مقصر معها ولو، نوع من العقوق. فكل أسباب الإحسان من البرور، وكل منع لأسباب الإحسان من العقوق كيفما كانت، سواء كان منع لإحسان مادي كأن يمنع عنها النفقة والإكرام، أو كان منع لإحسان آخر كأن يمنع رجله عن زيارتها، عن تفقدها، عن السؤال عنها وما إلى ذلك. فهذا هو العقوق باختصار. الوأد، وأد البنات، هذا عمل كانت تفعله الجاهلية، والمقصود بذلك أن بعض العرب الجفاة في الجاهلية قساة القلوب كانوا يدفنون بناتهن بعد الولادة وهن قيد الحياة. بنت حية كيمشي كيحفر التراب كيدفنها كيطمر عليها التراب، هذا هو الوأد، هذا هو الوأد، وهو عمل قبيح أنكره القرآن الكريم، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، عمل قبيح، وحرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال فيما يخبر به عن ربه عز وجل: إن الله حرم عليكم، ثم ذكر من المحرمات وأدى البنات. وأما منع الوهات فالمقصود بذلك أن يمنع الإنسان الواجبات التي تعلقت بذمته، لأن كل واحد منا تجب عليه واجبات، عليه واجبات، وتثبت له حقوق. بحال ايش يعني؟ كتمشي تخدم، من حقوقك إذا عملت، من حقوقك إذا عملت أنت تتقاضى أجرا، تخلص، هذا حقك، ولكن من واجباتك أن تؤدي ذلك العمل، هذا معنى الحقوق والواجبات. الحقوق أي الشيء التي هي الأشياء التي هي لغيرك ينبغي أن تؤديها، عفوا، الواجبات الأشياء اللي هي عليك ينبغي أن تؤديها، الحقوق هي الأشياء التي ترجع إليك ويحق لك أن تطالب بها. مثلا الإنسان متزوج من حقوقه طاعة زوجته له، من واجباته النفقة عليها، من واجباته النفقة عليها، ينفق عليها لكي تطيعه. والشريعة مبنية على هذا، أنها وضعت الحقوق بإزاء الواجبات. إذن فهذا الرجل قلب هذا النظام. أما الحقوق التي ترتبت في ذمته فإنه يمنعها. شي واحد كيسالو شي دين ما يعطيهلوش، شي واحد خدم له ما يخلصوش، هذا الحقوق. شي واحد خدم له ما يخلصوش، حق الجار ما كيأديش، لأن الجوار يفرض حقوقا، الجوار يفرض حقوقا، غير إنسان كيجي يسكن قدامك دغيا داك السعادة تنتقل إلى رقبتك حقوق ديالو عليك، ديالو عليك. فكل حق ترتب في ذمته كيفما كان يبالغ في منعه وعدم أدائه. وهات أرى يطالب بما ليس له، وهذا عقلية في غاية الغرابة. الأشياء التي ثبتت في ذمته لا غبار عليها يبالغ في منعها، والأشياء التي لا يستحقها ولا غبار عليها يبالغ في المطالبة بها. ليته كان يطالب بحق من حقوقه لعذر، شي حاجة ديالوك يطالب بها لعذر، ولكنه يطالب بما ليس له، وهذا أمر قبيح نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصاف المحرمات وجعله في هذا الترتيب مع العقوق ومع قتل النفس التي حرم الله عز وجل بغير حق. إذن هذه الشرح المبسط والفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة، لماذا ذكرت هذه الأشياء على هذا النسق؟ أنا منذ مدة طويلة وأنا أبحث عن الخيط الرابط بين هذه الأشياء الثلاثة، وأنا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن هذا الترتيب لا بد أن يكون فيه ملحظ. ولا شك أن الملاحظ والمعاني والأغراض كثيرة، ولكن مما ظهر لي وأحسبه إن شاء الله صوابا، أن هؤلاء الثلاثة يجتمعون في قاعدة واحدة، وهي انعدام الرحمة من قلوبهم، انعدام الرحمة من قلوبهم. وقضية غرس الرحمة في القلوب من القضايا الكبرى التي بعث به النبي، التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وكان يقول ارحموا ترحموا، وكان يقول لا يرحم الله من لا يرحم، وقال ما أفعل الله لك وقد نزع الرحمة من قلبك. فكان يحث على الرحمة ويغرس هذا الخلق في القلوب غرسا. فهذا الحديث جاء لكي يبين أن الذي تنعدم الرحمة من قلبه بعيد عن كل خير، بعيد عن كل أمر حسن. وكيف ذلك؟ يعني الذي يقابل الإحسان السابق في حالة عدم الاحتياج، في حالة عظيم الاحتياج، يقابله بالنكران، هذا لا ليس في قلبه رحمة. يعني أن الأم أحسنت إليك، كل واحد أحسنت أمه إليه وهو محتاج، مش مستغني، مش واحد الإنسان ضيفك وفلوسك في الجيم وتقدر تمشي للمطعم، تقدر تمشي للوطيل كبير كتعرف ودار فيك واحد الخير، فرق كبير بين واحد يدير فيك الخير وأنت بحالة الاحتياج، فرق كبير جدا بينهما. كل الخير مزيان، وشوف الإنسان الخير وخا يكون غير صغير، الخير ولو كان صغيرا، شي حد جاي مثلا لهذا المسجد على سبيل المثال، ولا يفعل هذا أحد يأتي إلى هذا المسجد، أو غادي لشي إدارة أو غادي لمحطة القطار وتلقى شي حد سولو، قال له سيدي فين محطة القطار؟ قال له تبعني ربما ما تعرفش توصل لها، قال له دابا أنا عندي الخدمة ولكن سبقك أنت الأول، ومشى قطع به واحد 3 أو 4 كيلومتر طوموبيل تلحقو، قال له من هنا ورد البال هذه البلاصة ما تباركيش فيها وهذا كذا وكذا، منين سال بغى يودعو الآخر بدا كيسب فيه، يفعل هذا عاقل؟ هذا هو مقابلة الإحسان بالإساءة، هذا أمر لا تفعله الفطرة السليمة. واحد الإنسان دار فيك خير أنت كتقلب له داك الشيء بالعكس، وهذا هو العقوق. وهذا ولا يفعل ذلك إلا من ليس في قلبه أدنى مثقال ذرة من رحمة بصفة النهائية، أو شيء واحد مثلا أعطاك شيء إحسان، مثلا دار لك شيء حاجة فنظر الإنسان لطمه. الناس يعدون من الجفاء ألا تشكر على الإحسان، إلا ما قلت له شكرا كيعدك شيء لا يدل على وجود الرحمة في القلب. هذا الأول. وهو أدى البنات، هذا أخذ بنته التي هي من صلبه وهي صغيرة فقتلها قتلة بشعة، يعني دفنها وهي حية تموت ببطء بطريقة بشعة، مع أن الله عز وجل جبل القلوب وفطر القلوب وخلق القلوب على أن ترحم كل صغير من الخلق ولو كان مؤذيا وضارا. مثال ذلك، الحاجة اللي هي صغيرة كلها كترحمها، لماذا؟ لأن الصغيرة مجلبة للرحمة، حاجة صغيرة بحال واحد المغناطيس بحال الهند تجلب وتستل الرحمة من قلبك. احنا دابا مثلا وبالمثال تتضح الأشياء، لو تخلي يصل الدار ديالو وصل داك الفار الكبير طبة كبيرة صغير وكبير شبار شبار قتل ضرب كله فرضنا عثر الإنسان على عش صغير فيه الفيران باقي صغار باقي ما بدلوه شي تزغب قدر شي يدير لهم داك الشيء ياك هو هذا واضح الحية الصغيرة ما كيقدرش يقتلها الإنسان وهذه عباد الله بنته واش هذا عنده شي رحمة الحيوان حية صغيرة ضارة ما عندك معها علاقة مضرة كتشوفها صغيرة ما تقدرش تقيسها الفار صغير باقي هكاك دار تقيسها وهذا بنته ولم تتحرك في قلبه مشاعر الرحمة إذن هذا مغسول محي ممحي صيفة نهاية وحدة عباد الله ترتبت عليه حقوق الناس هذا هو معنى جاء مسكين خدم له شهر وهو خدم له والأخر محتاج ما نعدكش لم يتحرك قلبه إلى هذاك الرجل شهر ومعلق مسكين طالع هواد وكذا ومشي غيدير فيه الخير حقه منعه وإذا ظهر له شيء كيمشي يتسلط عليه وخما عنده فيه تحر هذا كان شرحه بالدارجة باش كيتضح أي قلبين هذا إذن فهؤلاء الثلاثة تجمعهم هذه القاعدة من انعدام الرحمة من القلوب فكأن الحديث يقول من أعظم الخزايا وأقبح الرزايا أن يكون الإنسان ذا قلب لا رحمة فيه فإنه إذا كان كذلك فعل أمورا مستقبحة تحرمها الشريعة وهذه أمثلتها ونماذجها ولأجل ذلك فهؤلاء إذا فتش الإنسان سيجد إن شاء الله هذا الأمر يربط بينهم الرابط بين هؤلاء جميعا كاملين هو انعدام الرحمة من القلوب واللي كيربطهم المسخوط مع إما الذي قتل بنته صغيرة يعني أن ما عندهمش الرحمة بصفة نهائية في القلوب ولهذا كما قلنا جاءت الشريعة لكي تغرس في القلوب الرحمة وتسقيها بذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مؤثر جدا أن امرأة من بني إسرائيل كانت بغيا يعني امرأة فاسدة فمرت على بئر فوجدت كلبا يلحس التراب أو قال الثرى من كثرة العطش يعني كي داك شاف البير وداك الماء اللي فزق مع البير كي يلحسه مسكين باش يبرد به ملي شفته رحمته جات تحركت العاطفة الرحمة في قلبها فنزعت خفها الخف بحال الشربيل بحال وعند الخرقة ديالا ربطت وداك كدلو صنعت كدلو ودلت ذلك فسقته فشكر الله لها ذلك فغفر لها رحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرتي ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض قال هذه مرأة دخلت الجهنم على سبب قطة جابتها هو إنسان يربي القطط لا حرج في ذلك ولكن تهلا فيها هذه ما خلتهاش تلقاتها لا ربطتها ما أعطتها تأكل قلوا بالدارجة دينا ما خلتها تدبر على رأسها تمشي تقلب تأكل على رأسها وهذا ربط مقصود به التعذيب مقصود به التعذيب وهذه القطة عباد الله شدرت لك واش خطات فيك واش شركت معك شي ميرات واش تعدت عليك كنقولوا الانسان يدير شي حاجه كاين داعي للانتقام هذا هو المشكل لو كان دار داكشي لشي بنادم تقول هذا راه دار له شي حاجه ولا ربطو خلاه ما كياكل ما كيشرب ولكن هذا حيوان ما هي نبحث عليها حتى القط لا ينبح ما هو تعرض له ما هو وهذا انعدام الرحمه ولهذا حتى الامثله التي يذكرها شوف الشرع قطه ما قالش كلب او قطه لأنها لا تؤذي لا تؤذي فهذا إيصال للإذاية هيداك هيداك إيصال للإذاية إيصال للإذاية إذن فمن تتبع موارد الشريعة ومصادرها يعني الموارد هي المنابع ديال المصادر هي فمن تتبع موارد الشريعة ومصادرها ونصوصها وأحكامها في القرآن والسنة قوال العلماء وقواعدهم يجدهم أنهم جميعا على كلمة واحدة أن الشريعة بأحكامها جاءت لغرس الرحمة في القلوب وأن القلب الرحيم قريب إلى الله، وأن القلب القاسي بعيد من الله، وهذا محل إجماع واتفاق بين الجميع. ثم جاءت هذه الأحاديث لكي تفصل هذه القاعدة العامة وهذا الأمر المجمل. إذن هذه المسألة الرابعة.
Donc ensuite, Cheikh a extrait deux autres leçons et moralités. Donc suite aux deux premières qu'on a citées, la troisième, c'est il a pris la première partie du hadith dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah azza wa jalla vous a interdit trois choses. Donc bien entendu, tout ce qui est interdit, c'est quelque chose. C'est l'islam invite les fidèles à ne pas le commettre. Faute de quoi, il va essuyer l'insatisfaction d'Allah Azza wa Jal, ainsi que le risque de sa punition. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité trois interdits. L'impiété vis-à-vis des mamans. Et ensuite il a cité le fait d'enterrer les filles vivantes, les jeunes filles vivantes. Et ça c'était une pratique qui était connue chez les Arabes avant l'avènement de l'islam. Et la troisième c'est man'wahat, interdire tes devoirs et demander tes droits, mais d'une manière exagérée ou non convenable. Donc, alors il a commencé par l'impiété vis-à-vis de la mère. L'impiété peut se faire de deux manières. Il y a l'impiété matérielle et il y a l'impiété morale. Alors l'impiété matérielle, c'est le fait de ne pas, par exemple, aider ta mère qui est dans le besoin, ne pas lui donner de l'argent, ne pas subvenir à ses besoins matériels. L'impiété morale, c'est par exemple ne pas chercher à savoir comment il est son état, ne pas lui rendre visite. Et donc il ne suffit pas que quelqu'un, par exemple, fasse un mandat mensuel à sa maman ou à son père, il lui envoie un mandat tous les mois pour dire « moi j'ai accompli mon devoir vis-à-vis de mes parents ». Je leur envoie l'argent dont ils ont besoin, alors qu'ils ne leur rendent pas visite assez, alors qu'ils ne leur téléphonent pas, alors qu'ils ne demandent pas après leur santé. Donc on a besoin de ces bienséances sur ces deux niveaux et sur ces deux plans. Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ici les mamans, il n'a pas cité les pères pour les choses que nous connaissons très bien, parce que la mère a accompli énormément de choses pour l'enfant. Déjà la grossesse, les difficultés de la grossesse, l'accouchement avec toutes les difficultés qui accompagnent l'accouchement, la bienséance et la bienveillance qu'elle a observée vis-à-vis de son enfant depuis qu'il était petit jusqu'à ce qu'il ait grandi. Et c'est pour cela que l'islam donne toujours la priorité, bien entendu, aux mamans, mais ça ne veut aucunement dire que les parents ne sont pas concernés, les pères ne sont pas concernés, ils sont concernés. Il y a même des savants qui disent qu'il y a un secret en cela, c'est que lorsque nous grandissons, nous savons très bien ce que le Père a fait pour nous, puisque nous sommes conscients. On est à un certain âge, lorsqu'on a l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, donc on est conscient, et on sait ce que le Père a fait pour nous. Il sort tous les matins travailler, il ramène l'argent, et ainsi de suite. Donc on est conscient de ce qu'il a fait pour nous. Mais les mamans, il y a une période où on était inconscient, et on ne sait pas ce qu'ils ont fait pour nous. Il nous a porté pendant 9 mois, on était inconscient, on ne sait pas comment était cette difficulté. Lorsqu'il nous a allaités 2 ans, ou plus ou moins, on n'était pas conscient de cet allaitement. Elle a veillé sur nous les premières années, on était inconscient. Et voilà pourquoi l'islam, donc, il insiste. C'est pour ça qu'il donne la préférence à la mère, puisque nous savons ce que le père a fait pour nous, mais nous ne savons pas tout ce que la mère a fait pour nous. Donc c'est pour cela qu'il y a ce rappel pour une partie de notre histoire que nous ne le connaissons pas. Donc voilà pourquoi l'islam il donne toujours cette priorité aux mamans plutôt qu'aux pères. Ensuite, il y a le fait d'enterrer les enfants, ou bien les filles vivantes. Donc vous savez que c'était une pratique abominable qui était accomplie par les Arabes, certains Arabes avant l'avènement de l'islam, parce qu'ils avaient honte d'avoir des filles. Et vous savez très bien que l'islam a interdit ceci depuis l'aube de son apparition. Dans le Coran, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Lorsque la jeune fille enterrée vivante sera questionnée le jour du jugement, par quel ou bien à cause de quel péché elle fut enterrée. Et regardez, Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Lorsqu'elle sera questionnée, alors que normalement on doit s'attendre à ce qu'ils disent lorsque les pères seront questionnés pourquoi ils ont enterré l'enfant.
Mais là, la question sera posée à l'enfant pour montrer l'abomination de ce qu'a fait le père. Parce que la réponse, elle est claire lorsqu'il va lui dire « Quel est le péché que tu as commis pour être enterré ?» alors que c'est une jeune fille. Forcément, il n'y a pas de péché, il n'y a même pas lieu de poser la question. Mais lorsqu'il dit « Elle sera questionnée » pour dire qu'il n'y a aucune chance pour le père de trouver une excuse. C'est pour cela que la question ne sera pas posée à lui. Lorsque tu poses la question au père, c'est que tu lui donnes la chance ou bien la possibilité de se défendre et de répondre. Mais là, la question ne sera pas posée à lui. Il n'a pas de chance. On ne lui donne pas une chance de répliquer ou de trouver une excuse ou d'argumenter. On pose la question à la fille. Parce qu'elle, elle ne va pas trouver une excuse pour son père. Il m'a tué alors que je suis innocente. Donc ceci montre l'abomination de cet acte-là. Man'an wahat, c'est l'interdit ou bien la demander avec cupidité ou interdire avec avarice. C'est le cas, nous savons très bien que n'importe quel être humain a des devoirs et il a des droits. Nous avons des devoirs et des droits et la religion islamique établit ce principe général. Donc la religion t'ordonne à accomplir tes devoirs et à demander, bien, et t'as le droit de demander tes droits. Mais il faut que ça se fasse d'une manière équilibrée. Mais lorsque vous avez certaines personnes qui ne respectent pas cette règle-là, lorsqu'il s'agit de leur devoir, ils les retiennent, ils les interdisent, ils interdisent son devoir. Lorsqu'il s'agit de lui, de rendre devoir, il dit « je ne le fais pas, je me maintiens, je me restreins à l'accomplir ». C'est ça « man'an », la restriction. Et lorsqu'il s'agit de demander ses droits, même ce qui n'est pas ses droits, ne relève pas de ses droits, il le demande et il est exigeant dans sa demande. C'est comme « ladina idha k'talu ala nasi » Donc là, l'islam n'accepte pas ceci. Imagine quelqu'un qui a travaillé pour toi pendant une certaine période, un ouvrier, un artisan qui est venu travailler pour toi. Donc il est resté à travailler un mois, deux mois. Et lorsqu'on vient pour le payer sur ce qu'il a fait, on lui dit non, tu n'as rien pour. J'ai rien pour toi. Je ne te dois absolument rien. Donc c'est une abomination. Ou bien lorsque tu demandes un droit qui ne t'appartient pas, quelque chose qui ne t'appartient pas, qui ne revient pas à toi. Là donc, bien entendu, tu as exagéré et tu es tombé dans l'interdit. Et vous voyez qu'Allah Azza wa Jal, même ceci, il l'a mis dans les trois interdits. Alors, Cheikh, ensuite, il a dit maintenant la quatrième moralité, la quatrième leçon de ce hadith. Il a dit que pendant longtemps, il a réfléchi sur le point commun entre ces trois interdits. Pourquoi le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam a choisi ces trois interdits dans ce hadith-là? Il aurait pu choisir d'autres. Quel est le point commun entre ces trois personnes? Un impie vis-à-vis de sa mère, quelqu'un qui enterre sa fille vivante et quelqu'un qui restreint ses devoirs et qui demande avec acharnement ses droits et même ses non-droits. Quel est le fil conducteur? Quel est le point commun entre ces trois? Et Cheikh dit que donc il a trouvé qu'il y a un point commun. Ce point commun, c'est que ce sont des gens qui manquent de la miséricorde dans leur cœur, les trois. Il leur manque de la miséricorde dans leur cœur. Et ça, c'est pour montrer que l'islam a un message important, universel à transmettre, c'est le fait d'ancrer la miséricorde dans le cœur de l'humanité, dans le cœur de ses fidèles. Si tu n'arrives pas à enraciner la miséricorde dans ton cœur, c'est que tu n'as rien compris du message de l'islam. C'est que tu n'as pas respecté les obligations de l'islam. Alors, Cheikh ensuite, il a expliqué les choses. Donc, en parlant de la mère, imaginez que la mère, elle s'est occupée de toi pendant ton enfance et elle n'a rien demandé, elle n'a pas demandé de salaire. Et au moment où il était dans le besoin, il avait besoin de toi, tu l'ignores complètement. Tu es impie vis-à-vis d'elle. Donc là, ça témoigne de quoi? Ça dénote la non-existence de la miséricorde dans ton cœur. Et voilà ce qu'interdit l'islam. Voilà pourquoi ce genre de personnes méritent le courroux et l'insatisfaction de Dieu, voire la punition et le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Certes, c'est une personne, on ne peut pas imaginer que cette personne ait ne serait-ce que un grain d'atome de miséricorde dans son cœur. Lorsqu'il délaisse sa mère, il ne s'occupe pas d'elle, alors que lorsqu'il était petit, il avait besoin, elle était toujours à ses côtés. Et le jour où elle avait besoin de lui, il l'a délaissé, il n'était pas à ses côtés. Voire il attendait le jour de sa mort, malheureusement. Et ça existe, ce sont des choses malheureusement dramatiques, et ça existe dans notre société, même chez les musulmans malheureusement. Parfois ça existe, les gens se sauvent. Alors que, regardez le message de l'islam, il ne cesse de marteler, d'être miséricordieux. Irhamu turhamu, soyez miséricordieux envers les autres et Allah Azza wa Jalla sera miséricordieux vis-à-vis de vous. Innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama, Allah Azza wa Jalla n'accorde sa miséricorde que comme miséricordieux et au clément parmi ses serviteurs. Allah Azza wa Jalla n'accorde pas sa miséricorde à celui qui n'accorde pas sa miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme-là qui avait beaucoup d'enfants, qui a dit: je n'ai jamais embrassé un de mes enfants. Il lui a dit: que veux-tu que je te fasse si Allah Azza wa Jalla a extrait de ton cœur la miséricorde? Il a écarté la miséricorde de ton cœur. Qu'est-ce que je peux te faire? Ça veut dire que tu es dans un état grave, tu es dans une mort de cœur. La deuxième personne, pareil, il a dit: une personne, imaginez une personne qui vient enterrer sa fille vivante, une jeune fille qui est inconsciente quelque part, qui n'est pas responsable, qui ne comprend rien, et on vient l'enterrer. C'est vraiment avoir un cœur mort, c'est vraiment ne pas avoir ne serait-ce que le grain d'un, ne serait-ce que l'un atome de miséricorde. Et Cheikh, il a donné un exemple. Il a dit que d'habitude, tout ce qui est petit attire la clémence et la miséricorde. Même parfois des animaux nuisibles, a-t-il dit, lorsque, imaginez, vous rentrez chez vous, vous voyez un rat ou bien une souris. Tout de suite, vous prenez tout ce qui tombe sur votre main, la première chose qui tombe sur votre main, pour le tuer. Mais imaginez, vous entrez chez vous, ou bien vous êtes à quelque part, et vous trouvez un nid dans lequel il y a des petits ratons, ou bien des petites souris, encore nues, qui n'ont pas de poils. Est-ce que vous imaginez que vous allez les écraser, ou bien les jeter, ou les brûler? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Même des animaux parfois qui sont féroces, lorsqu'on les voit adultes, on peut les tuer, on les aime pas. Mais lorsqu'on les voit petits, ouais, même prenez les hyènes ou bien les lions, ce que vous voulez. Lorsque vous les voyez petits, tout de suite, il y a de la miséricorde qui jaillit de votre. C'est quelque chose qui est instinctif dans le cœur des personnes. Et imaginez quelqu'un qui va venir enterrer sa propre fille. C'est pas un animal, sa propre fille. Donc est-ce que vous imaginez qu'il a un grain d'atome de miséricorde? Voilà pourquoi le professeur Asm a choisi cet exemple dans les interdits. Quelque part, il est en train de mettre en garde contre la perte de la miséricorde. Celui qui a perdu la miséricorde, il n'a rien compris à la législation islamique. Il ne s'est pas incliné à la législation islamique. Il en est de même pour la troisième catégorie. Quelqu'un qui vous rend un service, il vous rend un service, il a travaillé pour vous, il a sué pour vous rendre service, et au moment où vous deviez accomplir votre devoir vis-à-vis de lui, lui donner un salaire, le remercier, vous le rejetez. Vous ne lui donnez pas son salaire et vous risquez même de l'insulter. Et Cheikh, il a donné un exemple. Imaginez, dans votre route, vous trouvez quelqu'un, vous lui dites où se trouve la gare. Il vous dit: bah, suis-moi, je vais te montrer où c'est. Et il roule pendant un certain moment, il te ramène jusqu'à la gare. Et après, dès qu'il s'arrête, voilà la gare, tu commences à l'insulter. Je lui dis: mais c'est quelqu'un qui n'a, c'est celui qui adopte ce profil-là, ce statut-là, c'est quelqu'un qui n'a pas de miséricorde dans son cœur. Et c'est pour cela justement que le prophète a intégré justement ce péché-là dans les trois choses. Donc la question de la miséricorde, c'est quelque chose qui est capital dans l'islam. Capital dans l'islam. Un bon musulman, c'est quelqu'un qui a un capital de miséricorde qui est grand dans son cœur. Et regardez, même le prophète, lorsqu'il donne des exemples, ils sont très éloquents et très parlants. Le prophète a dit: une femme de Banu Israël est entrée au paradis parce qu'elle a abreuvé qui? Un chien. Elle a trouvé un chien qui avait soif et qui était en train de lécher la terre qui était humide. Elle est venue, elle a pris ses chaussures, elle a pris donc un tissu, son tissu, et elle a donc cherché l'eau à l'intérieur du puits et lui a donné à boire. C'est un acte de quoi? C'est un acte de miséricorde. C'est un acte de miséricorde. Alors qu'elle était une femme très égarée, une prostituée d'après certains hadiths. Et malgré cela, Allah Azza wa Jalla lui a pardonné, il l'a fait entrer au paradis. Pourquoi? Parce que justement, la miséricorde, qui est le principe fondamental auquel l'islam fait appel, a jailli dans son cœur. Et elle a été rétribuée en conséquence pour cette miséricorde. Et de l'autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'une femme est entrée en enfer à cause de quoi? À cause d'un chaton ou bien d'un chat qu'elle a emprisonné. Il ne lui a pas donné à manger et il ne lui a pas donné la liberté d'aller chercher sa nourriture par lui-même. Et elle fut entrée en enfer. Et regardez même comment le prophète a choisi l'exemple. Il a dit un chat. Il n'a pas dit un chien. Parce qu'un chien, à la limite, on peut imaginer que ce chien va aboyer sur toi, va courir derrière toi. Mais un chat, c'est un animal pacifique, il miaule. Et c'est rare de trouver un chat qui va miauler pour te faire peur si tu ne lui fais pas de mal. Donc, il a pris l'exemple d'un chat. Ça veut dire un animal pacifique qui n'a rien demandé, qui n'a fait aucun péché, qui ne t'a pas menacé. Et malgré cela, tu lui as fait du mal. Rien que pour ça, même si par ailleurs, tu es un bon pratiquant des actes rituels, mais malgré cela, tu mérites le châtiment d'Allah Azza wa Jal parce que tu n'avais pas construit la miséricorde à laquelle fait appel l'islam. Donc ce principe de la miséricorde est très important et c'est pour ça à la fin, Cheikh il a dit, celui qui enracine la miséricorde dans son cœur et qui la fructifie est très proche de Dieu. Et celui qui extirpe ou bien qui arrache les racines de la miséricorde de son cœur, il est loin de Dieu.
بقية الحديث سأجعله نهاية هذه الكلمة التي جمعتنا وأنا لا أحب الكلام الطويل على العادة وأجزئ ما بقي من الحديث إلى جزئين. الجزء الأول منه سيكون هو الفائدة الرابعة والجزء الأخير منه سيكون هو الفائدة الخامسة وبه أختم
الخامسة والسادسة
وبه أختم. الفائدة الخامسة هو أن نستعرض بإيجاز المعنى الإجمالي ثم بعد ذلك ننظر إلى الخيط الناظم نفس المنهج. المعنى الإجمالي: وكره لكم قيل وقال يعني ترويج الأخبار غير الموثوق بها كلام الإنسان ليست له فيه فائدة. أخبار كنسميوها احنا في الدارجة المغربية أخبار السوق. قال الهضرة قالوا قلنا كذا أخبار السوق. قيل وقال وكثرة السؤال، وهذا أيضا جانب من جوانب بلاغته صلى الله عليه وسلم، لأن وغادي نضرب لكم واحد المثال ستفهمون الأمر بشكل واضح. كثرة السؤال اللفظ، أنا سمعت ترجمة ولكن الحديث عجيب، عنده أكثر من معنى مش غير معنى واحد. كثرة السؤال تفهم بمعنى كثرة سؤال العلم في القضايا المشكلة التي لا يترتب عليها عمل. سنغير كيسول كيقول لك مثلا يجي وجنة عندها 8 وديك الأبواب قداش نعمس، شحال فيهم ديال الطول، شحال فيهم العرض، الشريعة ما غرضت بهذا، شحال فيهم ديال الطول، شحال فيهم ديال العرض، واش نعمس بالنحاس، واش مذهبين، واش منقوشين، واش فيهم وما فيهم. هذا السؤال، ومن الناس من يسأل هذا النوع، وهذا جاء القرآن الكريم ينهى عن هذا النوع من الأسئلة. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. كينبش، وهذا الذي كينبش كثيرا رجل فارغ، لو كان مشغولا بتطبيق ما يعلم لما بقي له وقت حتى يسأل عن أمور لا تهمه. هذا المفهوم الأول ديال كثرة السؤال، وفعلا هو منهي عنه دون تفصيل في تفاصيل كثيرة، لأن كل لفظة محتاجة إلى أن أتوقف عن دافع فائدة، ولكن أنا كله أجمعه وأختصره. المعنى الثاني لكثرة السؤال وهو سؤال الناس ما عندهم، يتعرض له كيسعى سعيا. شوف النبي ما خلش السؤال، قال الكثرة. الإنسان يقدر يضطر يسعى كي ما يكترش، شتي العبارة؟ وكثرة السؤال، يمكن يضطر تجيبوا الظروف، ولكن قال كثرة السؤال. مش السؤال، علاش؟ لأن كثرة السؤال يدل على استكثار. هذا إنسان ما يطلب شي حاجة الكفاية، لا
كلش حاجه الكفايه الشيء. وهذا هذا الكلام هو بمثابتي بحال اللي كتشوف مثلا شي لوحه مرسومه الا شتيها من هذا الجهه كتبان لك صوره، الا مشيتي من الجهه الاخرى كتبان لك صوره واحده اخرى. هذا امر بديع، وكذلك الالفاظ، الا ان الالفاظ تسمع وتتعقل والصور ترى بالعين. فكما ان الانسان اذا راى مثلا رسام رسم صوره كيشوفها من جهه اليمين كتظهر له صوره، هي نفسها لوحه نفسها كيمشي من جهه اليسار تظهر له منظر اخر. نفس الكلمه وكثره السؤال تنظر اليه من هذه الجهه فتعطيك مفهوما صحيحا، وتنظر اليه من الجهات الاخرى فتعطيك مفهوما اخر وهو صحيح. وهذا الامر وقع ايضا في اللفظه الاخيره واضاعه المال. اضاعه المال له معنيان، المعنى الاول اضاعته، المعنى الاول اضاعته في فضول المباحات، في فضول المباحات. يعني واحد الانسان غادي يمشي مثلا يتسوق كيشري حولي ديال كاين بس، ولكن خصو ياكلو وكياكل منه شي حاجه ثم كاين قول لك وفلوسي وما شريناش الحلوف، كتقول له لا هذا داخل في اضاعه المال. تقول لك فلوسي حلال وما شريت شي شيء محرم، ولو كانوا فلوسك ولكن تنفقوا على حسب حاجتك، خاف فلوسك تنفقوا على حسب حاجتك، والباقي إما أن تتصدق به وإما أن تتركه لورثتك. حتى ترك المال لورثته هو مزيان. شوف الإنسان مثلا عنده مليار كيقول لا خصني نمحيها كلها، هذا غلط، لا يجوز له أن يضيعه، أن ينفق فوق حاجته. شوف الشريعة جات، وخا ما تنتفع شي به تتركه لمن خلفك فقد حفظت ذلك المال وتثاب على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أنتظرهم، قال لك من أنتظرهم، أو قال من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. قالوا الورثة ديك تخليهم عندهم حتى أنت يترحموا عليك، الله يرحمه يتفكروك، حسن ما تخليهم فقراء كيمشيوا يسعوا الناس. والمعنى الثاني لإضاعة المال، قلنا المعنى الأول هو إنفاقه في فضول المباحات، شيء مباح ولكن إنسان كي زعم. والمعنى الثاني لإضاعته إنفاقه في الحرام. ولهذا لو أخذ الإنسان مثلا على سبيل المثال أخذ 40,000 أورو ولا 50,000 أورو بنى بها بيته، أو 60,000 أو 70,000 أورو مثلا بنى بها بيته، هو محتاج لذلك البيت بذلك المبلغ، بنى بها بيته، دار البيت وكذا الدار ديالو، لما كان مسرفا ولو أخذ أورو واحد عيادا بالله وشرى بها قنينة خمر لكان مضيعا للمال. ليس تضيع المال من حيث كثرة إنفاقه إذا أنفق في وجهه المباح، ينفق مليار جوج في بلاصة مطعم، ولو أنفق نصف أورو في المحرم لكان مضيعا له. إذن فتضيع المال إما أن يكون بإنفاقه في الحرام ولو كان قليلا يسيرا ولو سنتا واحدا فهو مضيع له، وإما أن ينفقه الإنسان في فضول المباحات من باب الإسراف. هذا المعنى الإجمالي. الفائدة الثالثة والأخيرة وهي: ما هو الخيط الناظم، ما هو الجامع بين هذه الأشياء كلها؟ الجامع بينها فيما يظهر أيضا هو أن هؤلاء الثلاثة جميعا، هؤلاء الثلاثة جميعا يستبدلون نفيسا بخسيس. بحال واحد الإنسان عنده الذهب كيبيعو بالكاس ديال البلاستيك، يعطيك خاتم الذهب بالثمن ديالو وكاس ديال البلاستيك، لأنه قيل وقال. شنو هو كلام الخاوي؟ من ليس وراءه شيء، ولكن هذيك قيل وقال راهو ثمن، راهو هذيك قيل وقال راه واحد السلعه واحد واحد السلعه دفعها باش يدير قيله وقال شنو هي السلعه اللي دفعها؟ هي الوقت. كتعطي الوقت ديالك كتدفعوا سلعه باش تاخذ قيله وقال، ومش هذا الحماق. عوض قيله وقال قل سبحان الله الحمد لله الله اكبر. اجي غير جلس، اجي جلس في الجامع بلا ما تهضر، راك طالع مخلص. شوف الفرق، ماشي قضيه تكون جالس، قضيه فين تكون جالس، فين تكون جالس. واحد الانسان جالس في الشارع غير جالس، واحد جالس في الباب المعمل بجوج بهم جالسين، واحد كيتخلص واحد مسكين غير كيضيع وقته. ياك مشتركين في الجلوس، واحد كيتخلص حتى غير كيضيع وقته. خصك تعرف فين تجلس. هذا اللي جاي يجلس في المسجد راه فيه عباده، اما داخل لابد يدخل في شي حاجه، داخل في ورجل قلبه معلق بالمساجد، او لا فذلكم الرباط، فذلكم الرباط اللي هو انتظار الصلاه بعد الصلاه، او ان احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه. قال زكاه الصلاه بعد باقي ما هذا نهارو طالع دابا مخلص من الاول، باقي ما دار شي حاجه اخرى. هذا كما كيقولوا الفرنسيه من ديبار صافي مخلص غير جلس. اما الا زاد شي حاجه اخرى، ذكر الله او صلى او قرا القران او جلس مجلس العلم، هذاك شيء اخر عنده شيء اخر. اذا فهذا اللي كيدير القيل والقال ماذا يصنع؟ يعني واحد الوقت نفيس جدا، شيء حاجه مهمه جدا عظيمه جدا، كيدفعها باش ياخذ واحد الحاجه مساويه والو، غير القيل والقال. حتى التسميه ديالها كيديرها سميتها غير القيل والقال، ما موراها حتى فائده، لا يحصل من ورائها شيء. قيل والقال هذا يبيع نفيسا بخسيس كامل. الخسيس هو الحاجه اللي ما عندها قيمه، كيدفع حاجه اللي هي قيمتها غاليه في مقابل ماذا؟ مقابل لا شيء. كثره السؤال نفس الشيء، السعاي اللي كيكثر يدفع ماء وجهه ويدفع لحم وجهه في مقابل لا شيء سنتات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة للرجل حتى يبعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يعني كي تبعث يوم القيامة هو سكولت اللحم ديالو كله باعه بالسعية، كأنه تصور شيء إنسان كيقطع الله يحفظنا وإياكم واحد طريف من الحنك ديالو كيبيعه بسنت، كيدوز للجبهة كيقطع واحد طريف تكيبل حتى هكا. هو هذا هو هذا هو هذا بالضبط، وهذا بالذات كيدوز الجبهه كيقطع الطريف كيبيعو بنص اورو. هو جالس كيبيع، ملي تحشروا الناس يوم القيامه بوجوههم هو جاي هكاك مسكين هكاك واجني. هذا واش عباد الله واش هذا؟ هو هذا بيعوا. هي هذيك العباره ياك
تمام،
هذه اللي استعملتها انا، هذا التي هذه التي هدانا الله اليها. هذا الحمد لله ما سمع ما, ما, ما هذا هذا كيبان لي في الحديث. هو يبيع نفيسا بخسيس. ونفس الشيء الذي يكثر من السؤال فيما لا عمل تحته غير السؤال، وهذاك الشيء اللي عرفتي يمشي يخدم به، خلي ما تضيعش الوقت في هذه الامور هذه، ولا تفتن نفسك ولا تفتن نفسك. وربما جر عليك سؤال شيئا، كثرت السؤال ربما جرت عليك شيئا لا تستطيع ان تتحملها. انا في فترة قديمة جدا نحو 30 سنة كنا في مجلسين من مجالس أحد العلماء الله يرحمه، واحد السيد مبتلى بكثرة السؤال، اسألوا كثيرا. وهذاك الرجل من أهل العلم ونسبه شريف، قال الشريف كيسكل على أمور. قال له الشريف الإنسان كيكون ناعس في الدار ديالو وكينوض بالليل كيبغي يمشي يدخل للحمام. هو دابا الرجل العلم كان كيهضر على لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء، ولعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال. واضح يعني الوضوح ديال هذا الشيء ان الرجل يلبس القفطان ديال المراه هذا ملعون. اه ملعون يلبس القفطان ديال المراه ملعون، اولا المراه تلبس جلابه ديال الرجل بحال الجلابه هذه ديالو بحال هكا جلابه ديال الرجال المفصله للرجال. هادو كل واحد جعله الله ديالو، بعد الله جعله ديالو. أو تتشبه المرأة أو يتشبه الرجل بالمرأة، يدير تا هو المكياج، يدير العكار ويدير داكشي بحال المرأة، فهمتي؟ وهذا ويدير الحلقات، وهذا هو الواضح في الحديث. هذا ملعون دير من الحديث، وهو هذا اللي كتسول العالم ما معنى الحديث. هو شنو يختار له في باله؟ هذاك اختار له في باله انه ملي يكون بالليل ناس وينوض يبغي يمشي حاشاكم المرحاض، ناض بالليل صب الصنداله ديال المراه، البسها مش اخذ الغرض وجا. هذا لا يخطر ببال احد. قالوا الشريف هل هذا يدخل في التشبه؟ الاخر ما كانش من العاجزين والله العظيم، قال له حرام لا يجوز. خرجوا الناس قالوا له لازمتك دير بها، لا يستطيع. هذا من السؤال، هذا أمر مغتفر لا يلتفت إلي أحد. يعني تشينكلا ما فيهاش تشبه، واحد الصندلة إلى درجة دابوا لهم تسوين صندلة دلوضو، ما فيهاش يد الرجال هذه ديالهم. صحيح كيديروا هذا الشكل نسوي باين وشكل رجال، ولكن هذه أمور الابتدال، هذه أمور الابتدال. هذه يعني وقع رجلو تما مشى توضى بها وغسل رجلو كذا وجا حطها، ماشي هذا تشبه. أو المرأة مثلا نفس الشيء، مثلا شي صندلة كيتوضى بها الرجل مشات وتوضت بها وجد ليس فيها شيء من ذلك. فهذا من كثرة السؤال المذموم. وإضاعة المال نفس الشيء، هذا أيضا يبيع نفيسا بخسيس، لأن المال نفيس، المال نفيس، حاجة مش سهلة. المال كيدخل الجنة، يسمى به يحج، المال به يحج. بالمال نبني المساجد، بالمال نقف الأوقاف، كيدير الإنسان الطرق والأوقاف اللي بقى يترحم عليها إلى يوم القيامة. بالمال نحفر الآبار، بالمال كنوقف مصاحف القرآن، بالمال كنربي وليداتنا كنفقوا عليهم. ماشي شي حاجة هذه سهلة. المال هو هذيك العنصر النفيس الممتاز، كيمشي كيبدو في أشياء لا طائل من ورائها. فهذا يبيع نفيسا، يستبدل نفيسا بخسيس. هؤلاء الثلاثة كلهم يشتركون في هذا الأمر، لكنهم بطبيعة الحال أقل سوءا من الذي يقتل نفسه بغير الحق، ومن الذي يكون عاقا لأمه هو أقل، لكنه أيضا فعل أمرا ينبغي أن يجتنب. إذن هذه هي خلاصة بشكل موجز مختصر، وأسمح لأخي الآن بالترجمة لكي يعني ألتزم معه بالوقت الذي حددناه بالضبط. اتفقنا على وقتين، وإحنا غادين فيه هو هذاك، بدأنا في الثامنة وغادي نختمه بالوقت الذي اختار. أنا قلت له غير نصف ساعة، هو يعني زاد قال لنا نديرو ساعة ونص، قلت له ندير ساعة. فالحمد لله جات الأمر أنه بين الترجمة وبين الكلمة غتكون ساعة ونص بالضبط على هذا المدة هذه، ويختم لنا إن شاء الله.
نحن لا نستبدل
لا الله، ويختم لنا يختم لنا.
Donc la cinquième leçon, donc la deuxième, le cheikh a pris la deuxième partie du hadith, celle dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il vous a déconseillé trois choses. Donc la première de ces choses là, qila wa qal, donc raconter ou colporter ce que les uns disent, les autres disent, et ainsi de suite. Wa kathrat su'al, l'exagération dans la question. On va donner le sens. Et la troisième, donc, ida'at al-mal, gaspillage de l'argent. Alors, concernant le sens général de ces trois choses qui sont déconseillées, donc, bien entendu, on est à un autre degré. On n'est pas dans l'interdit, on est seulement dans le déconseillé. Alors, le qil ou al-qal, c'est le fait justement de parler de ce que les gens disent. Autrement dit, rapporter des paroles qui ne servent absolument à rien. On est en train de perdre le temps et on dit un tel a dit, l'autre a répondu, et on diffuse des informations qui n'ont pas été vérifiées, sans aucune vérification, et on raconte. Donc là, bien entendu, c'est quelque chose qui est déconseillé. Pourquoi ? Parce qu'on perd énormément de temps. Kathrat su'al, le fait d'exagérer dans la question, on peut la comprendre de deux manières. Et ceci, justement, dénote justement de l'éloquence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec la même phrase, il nous transmet deux messages. Kathrat su'al, ça peut être dans le cas de la quête du savoir, la demande pour apprendre certaines choses. Dans le cas de la religion, par exemple, le fait de trouver quelqu'un qui pose énormément de questions aux savants. Il pose des questions
qui sont parfois inutiles et sur lesquelles l'islam n'a pas voulu justement n'a pas voulu transmettre un message, n'a pas voulu prononcer quelque chose. L'islam s'est abstenu de parler de certains sujets et lui il commence à poser énormément de questions jusqu'à parfois ce que l'islam ou bien Dieu décide d'interdire cette
chose-là.
Comme a dit le prophète sallam, Allah Azza wa Jal s'est retenu sur certaines choses, il n'a pas précisé s'ils sont interdits ou permises par miséricorde de sa part envers vous. Donc ne posez pas de questions dessus, acceptez-les, c'est pas la peine de poser des questions. Parce que
وقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا الله يجعل بركة. قال رجل أكل عام يا رسول الله, هذا هو أكثر السؤال, شدك تدخل هالدق عرض عنه, أكل عام يا رسول الله أكل عام؟ قال لو قلت نعم لو وجبت, ولو وجبت لما استطعتم, هذا هو أكثر السؤال. إن الله فرض عليكم الحج فحجوا كافية لديتاي غيفدلوك ما تقدش عليهم. هذا هو معنى, ماشي معنى الدين كيخبع شي حاجه, الدين ما كيخبع والو, الدين واضح, ولكن هذاك كثره السؤال غتعبك. ان الله فرض عليكم الحج فحجوا, ماشي دير وحده, بغيتي دير جوج دير جوج, بغيتي دير ثلاثه دير, بغيتي دير 10 دير 10, ولكن ما تخليهاش تشريع عام. ان الله فرض عليكم الحج فحجوا بحال واحد التشريع عام كيدخل فيه كل شيء, ولكن إلى كل عام, وهذا هو التقييد, هذا هو التقييد.
Donc Cheikh a donné l'exemple d'un hadith dans lequel le professeur Asim s'adressa aux musulmans, il leur a dit Allah Azza wa Jal vous a instauré le pèlerinage, accomplissez-le. Et un compagnon lui a dit, est-ce chaque année qu'il faut le faire? Donc c'est ça le fait d'exagérer dans la question. Pourquoi tu poses la question? Le prophète a dit accomplissez le pèlerinage, ça y est. Donc celui qui peut le faire une fois dans sa vie, c'est bon. Deux fois, il n'a pas précisé. Donc c'est pas la peine d'aller trop loin. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait aller loin, il l'aurait dit dès le départ. Khayrul bayani al-aqsil hajati, parce que le prophète, en tant que prophète, il est obligé de transmettre tout le message sans aucune restriction. Donc puisqu'il a dit accomplissez le pèlerinage, ça y est, ça s'arrête là. Allez-y, faites selon vos capacités. Et ce compagnon lui a dit est-ce chaque année? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Il n'a pas voulu répondre. Ensuite, il a reposé la question une deuxième fois. Est-ce chaque année, au cher prophète? Le prophète s'est tué. Et il ne pose pas de question. Et il a posé la troisième fois la question. Il lui a dit, si je dis oui, ça va devenir obligatoire. Et dans ce cas, vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est l'exemple même qui montre le fait d'exagérer dans certaines questions. Et donc, il faut l'éviter. Ou bien, il y a katrat su'al, c'est le fait de mendier, de tendre la main aux autres. Et le professeur Asmil a dit l'exagération dans la mendicité. C'est-à-dire, si quelqu'un est dans un besoin, il a demandé une fois, ça y est, ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'un repas, tu as besoin d'argent pour acheter. Tu as demandé parce que tu étais dans une difficulté, c'est bon. Mais il y a des gens qui utilisent ça comme un métier. Et nous savons très bien ça. C'est des gens qui restent toute leur vie à mendier, à tendre la main aux autres. Donc là aussi, c'est déconseillé. Ça rentre dans cette catégorie d'exagération dans la demande, dans le fait de mendier des autres. Donc la même phrase peut avoir deux sens et ils sont concernés par ce hadith là. Troisième donc chose qui est déconseillée, ida'at al-mal, le gaspillage d'argent. Et là aussi on peut le comprendre de deux manières. Le fait de le gaspiller dans certaines choses qui sont permises mais dont tu n'as pas besoin, ce sont des options, quelque chose de complémentaire qui ne relève pas des nécessités, de tes nécessités. Lorsque tu dépasses le degré de tes nécessités, là tu es en train de tendre vers quelque chose qui est quand même permise, mais si tu commences à perdre énormément d'argent dessus, c'est pas bien. C'est le cas de quelqu'un qui va acheter par exemple un mouton, disait Cheikh, et qui va manger 2 kilos, 3 kilos et jeter le reste. Tu vas lui dire, mais pourquoi tu jettes le reste? C'est mon argent, je fais ce que je veux. J'ai pas volé, j'ai pas acheté de l'interdit. Oui, mais là tu as dépensé de l'argent dans quelque chose qui te sert à rien et dont tu as gaspillé certaines choses qui auraient pu servir à quelqu'un d'autre. Donc là aussi Allah Azza wa Jal déconseille cela. Et un autre exemple, c'est même quelqu'un qui a par exemple énormément d'argent, pas mal d'argent, et qui va mourir et qui dit je vais dépenser tout pour ne rien laisser à mes enfants. Il a le droit, c'est son argent. Mais même cela, l'islam le déconseille. Et c'est pour ça que lorsque Saad ibn Abi Waqqas était très malade, et le prophète est venu lui rendre visite, Saad ibn Abi Waqqas lui disait, je veux dépenser tout mon argent. Et le prophète lui a dit, c'est trop, tu ne peux pas dépenser trop. Et il lui a dit, ben, je vais dépenser la moitié. Il lui a dit, c'est trop. Et il lui a dit, ben, le tiers. Il lui a dit, le tiers, d'accord, mais ça reste quand même beaucoup. C'est exagéré. Et ensuite, il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, vaut mieux pour toi laisser tes héritiers riches plutôt que de mourir et de les laisser mendiant, tendre la main aux autres. Vaut mieux pour toi, alors que toi, tu es mort déjà. Autrement dit, parce que ces enfants-là vont invoquer Dieu pour toi, alors que tu es mort. Donc, ils vont profiter de ce que tu leur as laissé et ça va les pousser à demander la miséricorde pour toi, donc tu vas en profiter. Même si c'est ton argent et tu as le droit de le dépenser, mais regardez, là tu es passé dans une catégorie de ce qui est déconseillé parce qu'il y a de la gaspillage, il y a de l'exagération dans la dépense. Vous voyez un petit peu l'équilibre et le juste milieu de l'islam. Le deuxième sens de gaspiller l'argent, c'est le gaspiller dans le haram. Si tu as de l'argent licite et que tu achètes des choses licites, même si tu dépenses beaucoup, il n'y a pas de problème, tu es dans le licite. Et Cheikh a donné l'exemple de quelqu'un qui a construit une maison, 40 000 euros, mais il est optimiste bien entendu. Et une maison, c'est 200 000 euros maintenant. Donc, il a dépensé 200 000 euros pour construire sa maison. C'est halal. On ne va pas dire qu'il a gaspillé. Il a construit son dont il a besoin, les choses nécessaires. Donc, c'est halal tout ce qu'il a fait. Mais s'il dépense ne serait-ce qu'un euro pour acheter la drogue ou pour acheter le vin, là, on va dire qu'il a gaspillé l'argent. Parce que dépenser de l'argent dans le haram, là, on est même pas dans le déconseil, là, on tombe dans l'interdit. Parce que là, c'est l'interdit. Mais c'est ida'at al-mal. Donc là aussi, ça, on peut le comprendre dans ce sens. Donc voilà le sens général donc de cette deuxième partie du hadith. Maintenant, la dernière leçon, c'est quel est le point commun entre les trois. Comme Cheikh il a montré le point commun entre les trois premiers, c'est le manque de miséricorde. Il y a un point commun aussi entre ces trois choses déconseillées, c'est le fait d'échanger le précieux, quelque chose qui est précieuse, avec quelque chose qui est sans valeur. Tu vends quelque chose qui est précieuse, en contrepartie de quoi tu prends quelque chose qui n'a pas de valeur. Pour le premier cas, qil wa qal, le fait de raconter ce que les uns disent, ça c'est une perte de temps. Le temps est quelque chose de précieux. Ça a de la valeur le temps. Parce qu'on est jugé sur ce que nous faisons dans ce temps-là. Donc quelqu'un qui va commencer à raconter un tel a dit, l'autre lui a dit, un tel y a une telle information que j'ai entendue, c'est une perte d'argent. Il est en train de vendre le temps qui représente sa vie, c'est sa vie, il est en train de le vendre, en contrepartie de quoi il risque d'avoir des péchés même. Il ne gagne rien. Au mieux, il ne va rien gagner. Sinon, il va tomber dans le péché et avoir des séyyades. Et Cheikh, il dit, parfois même lorsqu'on ne fait rien, mais qu'on s'assoit dans un endroit béni, on gagne. Et au lieu de rester à l'extérieur en train de parler des gens, un tel a dit, perdre le temps pour dans des choses qui ne servent à rien, le simple fait d'entrer dans la mosquée, que tu t'assoies sans rien faire, tu es en train d'investir ton temps et de gagner dans ton temps. Parce que le professeur Asmi l'a dit, quelqu'un qui reste dans la mosquée en train d'attendre une prière, depuis une prière jusqu'à une prière, c'est considéré comme s'il était dans une prière. Là, il ne fait rien, il est en train d'attendre. Dans Al-Asr, il est en train d'attendre. Entre lui et quelqu'un qui est à l'extérieur en train de parler, qui est le gagnant? C'est celui-là. Parce qu'il a su vendre son temps avec un prix cher, qui est celui de rester dans la mosquée. Alors imaginez si cette personne-là va utiliser ce temps-là dans la mosquée à lire le Coran, ou bien à méditer, ou bien à faire le rappel de Dieu, tzbihat, ou bien à accomplir une prière, ou bien à apprendre à lire un livre. Donc là, vous imaginez le hasanat qu'il va gagner. Pendant ce temps-là, l'autre, il est en train de gaspiller le précieux avec quelque chose qui n'a aucune valeur et qui peut lui nuire dans l'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Donc là, vous voyez bien pourquoi on dit qu'il a vendu le précieux avec quelque chose qui est basse. Deuxième chose, l'exagération dans la question. Dans les deux sens de cette phrase-là, quelqu'un qui pose trop de questions, d'accord ? Donc il est en train de vendre du temps aussi, et la connaissance qu'il avait, la connaissance première qu'il avait qui était suffisante pour acheter parfois des réponses qui peuvent lui nuire. Et Cheikh a cité un exemple. Il a dit qu'autrefois, il était dans une assise d'un grand Cheikh et avec eux, il y avait un élève et qui posait trop de questions. Il était dans ce cas de figure. Il posait énormément de questions. Et Cheikh était en train de commenter et d'expliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit Allah azza wa jal, donc il fait tomber sa malédiction sur les femmes qui essaient de ressembler aux hommes et aux hommes qui essaient de se ressembler aux femmes. Et donc il leur a dit comme exemple, donc Cheikh ce qui parle, il leur a dit, c'est l'exemple par exemple d'un homme qui va s'habiller avec les habits de femmes ou les femmes qui vont s'habiller avec les habits des hommes. Donc là c'était suffisant, cette explication était suffisante. Et voilà que cet étudiant qui pose toujours trop de questions, donc il a levé la main et il lui a dit, mais imaginons que quelqu'un se réveille la nuit et qu'il veut aller accomplir ses besoins naturels et qu'il met les sandales de son épouse pour aller accomplir ses besoins. Est-ce que c'est halal ou haram? Et donc Cheikh a dit, ben, ce Cheikh là, il lui a dit, ben c'est haram. Voilà, donc il a vendu ce qui est cher de quelque chose qui n'a pas de valeur. Il aurait pu se contenter de ce qu'il a entendu, parce que le fait de mettre les sandales du mari ou le mari met les sandales des femmes, ils n'est pas en train d'essayer de ressembler, de vouloir ressembler à sa femme. Il est dans une nécessité, en plus il est chez lui, personne ne le voit. Il a utilisé ça dans le besoin, donc il n'y a pas de problème. Mais parce que cet homme-là a posé la question, comme il a dit, Cheikh n'était pas parmi les Aqzin. Cheikh Tawa, il lui a dit, ben, c'est haram. Voilà. Donc il aurait pu se contenter de la première information et il aura gagné, il aura acheté quelque chose, une information qui va lui servir dans sa vie sans restreindre les choses sur lui. Et voilà, il est reparti avec une restriction qui va lui nuire. Il en est de même pour celui qui exagère dans la mendicité, donc qui demande beaucoup d'argent. Là aussi, il est en train de vendre quoi? Il est en train de vendre l'honneur qui est précieux, son honneur. Lorsque tu demandes, tu n'as plus d'honneur. Parce que tout le monde, ceux qui vont te voir, le mendiant, tu n'as aucune valeur et aucun honneur aux yeux des gens. Et tu es en train de vendre ton honneur en contrepartie de quoi? Tu touches un peu d'argent, quelque chose qui n'a pas de valeur dans le delà. Et c'est pour ça que le professeur Asma a dit, l'homme continue de tendre la main aux autres et de mendier jusqu'à ce qu'il vienne le jour du jugement sans qu'il n'y ait de chair dans son visage. Et Cheikh, il a dit, c'est exactement comme si quelqu'un, à chaque fois qu'il demande, il prend l'argent, il prend un morceau de sa joue et il le coupe. Deuxième jour, il demande et il prend le front et il le coupe. Il prend l'oreille et il le coupe. Et arrive un moment où il vient comme un squelette. C'est exactement pareil. C'est comme ça que le professeur Hassan donne, c'est-à-dire l'exemple de l'homme qui exagère dans la mendicité. Donc forcément, il a vendu quelque chose qui est cher, son chair, son honneur, en contrepartie d'un peu d'argent. Et ensuite, donc, la dernière chose qu'a cité le professeur Hassan dans ce hadith-là, idaat al-mal, le fait de gaspiller l'argent dans ce qui ne sert pas. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est quelque chose qui est cher, qui est précieux. L'argent peut te faire rentrer au paradis. L'argent, tu peux l'utiliser pour accomplir le pèlerinage. L'argent, tu peux l'utiliser pour accomplir une umra. L'argent, tu peux l'utiliser pour acheter un livre. L'argent, tu peux l'utiliser pour acheter quelque chose qui servira aux musulmans plus tard, pour construire une mosquée, pour éduquer tes enfants. Et quelqu'un qui le gaspille, acheter des choses qu'il ne va même pas utiliser. Tu as trois paires de chaussures, j'en achète 10, 20. À quoi ça sert 20 paires de chaussures? Donc tu l'as gaspillé, alors que tu aurais pu l'utiliser dans quelque chose qui te sera rentable. Tu as vendu quelque chose qui est précieux, précieuse, avec quelque chose qui n'est pas forcément rentable. Donc voilà le point commun entre ces trois choses. Donc on a vu le point commun entre les premiers, le point commun entre les trois derniers. Et donc vous voyez maintenant la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam en énonçant ce hadith. Vous voyez, lorsqu'on le lit, premier abord, hadith simple, on peut l'expliquer en deux mots, on dit ben, c'est accessible, c'est facile. Mais à plus on médite sur le hadith, on essaie de le comprendre, c'est là où on voit la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parle pas d'une manière vaine, il ne parle pas de sa passion. Chaque mot qu'il utilise, chaque phrase qu'il énonce, donc il y a un message, il y a énormément de leçons à tirer. Et c'est comme ça que nous devons lire les hadiths du prophète. Il faut s'attarder dessus, essayer de réfléchir dessus, de méditer dessus et de découvrir tous les secrets qui résident dans ces paroles et essayer de tirer les leçons qui vont nous servir dans notre vie. Donc même si le prophète a cité des choses bien précises, trois là et trois là, mais il faut extrapoler. Donc on a vu la miséricorde, donc il faut voir toutes les choses qui ramènent la miséricorde et qui peuvent nous arracher la miséricorde et faire une extrapolation, et on va les rentrer dans la première partie du hadith. Et toutes les choses qu'on peut, chères et précieuses qu'on peut vendre, en contre deux parties de certaines choses qui n'ont aucune valeur, et extrapoler par rapport aux trois choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées dans ce hadith, et on va trouver qu'il y a d'autres exemples. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc nous a cité quelques, il nous a donné quelques flashs, et c'est à nous de méditer sur ce qu'il a dit et pour étendre notre compréhension et mieux comprendre notre religion. Et vous voyez bien, comme je dis toujours, à chaque fois qu'on s'engage dans la religion, qu'on étudie la religion, qu'on comprend notre religion, on est fier d'être musulman et on est content d'être musulman et on est fier de notre prophète et on est fier d'être la communauté qui a reçu le Coran. Mais encore faut-il bien utiliser les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore faut-il aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimer Dieu, aimer le Coran et méditer sur nos textes scripturaires qui sont d'une richesse illimitée. Nous remercions Cheikh Al-Fadil Sidi Mohamed Sirar parce que, et je le dis à chaque fois que je l'entends et que j'entends ses conférences, lui aussi il a Sahel Moumtani. C'est ça Sahel Moumtani. C'est même des leçons qui sont précises, qui touchent et qui sont pragmatiques et qui servent. On peut entendre parfois des conférences, des paroles qui sont belles, mais lorsqu'on sort, c'est comme si on avait un film. C'était bien, mais après, il n'a aucun impact. Alors que, alhamdoulilah, la chance avec Cheikh, lorsqu'on l'écoute, à chaque fois avec des choses qui sont à notre portée, on croit qu'ils sont à notre portée, qu'on entend tous les jours, mais il montre, enfin, c'est comme s'il les lime, et ils montrent leur grandeur et leur beauté qui jaillit dans nos cœurs et qui forcément ne passe pas inaperçu, qui va laisser forcément un impact positif dans notre cœur. Jazallahu anna Cheikh Sidi Mohamed Sarrar ala hadha al kalima al tayyiba wa hadha al idat al husnayat. Allah azza wa jalla an yubarika fi ilmihi wa an yubarika fi mjhoudih. Et nous vous donnons rendez-vous donc après demain inchallah pour ceux qui veulent se déplacer à Forbach. Vous ne le regretterez pas inchallah. Il y a plusieurs intervention, ça sera sur le radicalisme et l'intégrisme religieux, les causes et les remèdes, et Cheikh va donner une conférence qui est très pertinente parce que j'ai eu la chance d'entendre à Paris, mais ça sera encore plus riche encore, inchallah. Et il y aura donc un sociologue qui va donner une conférence, une table ronde et des conférences. Donc n'hésitez pas à vous déplacer le dimanche, inchallah, faites le covoiturage. Donc ça sera au palais de Burghof, le palais de congrès de Burghof à Forbach, c'est à 1h15 d'ici de Nancy, mais vous ne perdrez pas votre temps. Voilà une manière de vendre votre temps avec quelque chose de précieux. Ça sera là, justement, c'est une possibilité pour nous de faire ce que Cheikh a dit, de comprendre ce qu'il a dit et d'enrichir le temps qui est entre nos mains. On passe des week-ends et des week-ends sans aucune hasana. Là, c'est une forsa, c'est une occasion pour nous de gagner des hasanats. Le simple fait d'être ici à la mosquée, nous savons très bien que Allah Azza wa Jalla accorde sa bénédiction, même à celui qui était de passage, peut-être, qui n'est pas venu pour le cours lui-même. Et lundi aussi, inshallah, donc à 19h30, donc nous vous donnons rendez-vous encore une fois avec Cheikh Mohamed Sarrar.
Pour projection, inshallah.
Inshallah, lundi, inshallah, il y aura un sujet aussi qui est encore plus riche parce que j'ai eu la chance de voir un petit peu les diapos qu'il a préparés sur ce sujet-là, qui est très riche, et c'est pour la première fois qu'il va l'exposer. Donc ça sera lundi, inchallah, à 19h30. Donc n'hésitez pas à faire passer le message. Et les sœurs, donc, ils ont un rendez-vous le mardi. Et pour la semaine prochaine, là, c'est un message notamment pour les sœurs, pour vos épouses, vos sœurs, vos filles. La semaine prochaine, le samedi prochain et le dimanche, donc il y aura la 8e rencontre exclusive des femmes, 100% femmes. Donc comme vous le savez, on donne toute la mosquée aux femmes. Donc ça sera pour samedi après-midi. Et, enfin, fin d'après-midi et le dimanche aussi, avec la présence de deux éminentes conférencières, Inch'Allah. Ayman, qui a l'habitude de venir chez les sœurs, qu'ils connaissent très bien, et qui est une femme de terrain, et qui connaît très bien, justement, comment s'adresser aux musulmans, surtout dans ce pays-là, avec aussi le docteur Amin Al-Iraqi, qui est dermatologue, qui vient du Maroc spécialement, dermatologue, et qui est déjà venu, qu'on a eu la chance de recevoir ici. C'est une très bonne conférencière, notamment dans le domaine scientifique qui se rattache à l'islam. Donc nous donnons rendez-vous à nos femmes, à nos filles, à nos sœurs,
Inch'Allah, le samedi prochain ainsi que le dimanche. Donc il y a de toute façon l'annonce qui va circuler. Et faites passer le message. Jazakum Allah khairan. On s'en Allah Azza wa Jalla an yubarika fi jami'a, an yubarika fi shaykhana. On s'en Allah an yad'ou lana wa ikhtimana.
أنا أدعو لنا جميعا بأجمع الأدعية. واحد حديث فيه أن أجمع دعاء، يعني الدعاء لجمع الخير كامل هو هذا. إذا أراد أحدكم أن يجمع الدعاء كاملا قل هذا: اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبينا صلى الله عليه وسلم، آمين. ونستعيذك من كل شر استعاذك منه نبينا صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، إن شاء الله.